Alors, je vais prendre quelques exemples de figures. Il y a une figure que l'on appelle l'hypallage. Bon, ces figures, elles ont des noms bizarres. Elles font penser parfois à des noms de maladies ou bien des noms de monstres préhistoriques, si vous voulez. J'ai consacré un livre à toutes ces figures. Malheureusement, il n'est plus édité maintenant, mais enfin, il sera peut-être à nouveau, qui s'appelle 99 réponses sur les procédés de style, où je les ai toutes listées. C'est édité par le Centre régional de documentation pédagogique de Montpellier. Vous voyez. Donc, ces figures, il ne faut pas en avoir peur parce qu'elles ont des noms savants qui viennent du grec. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que nous en faisons tout le temps quand nous parlons des figures. Donc, ce ne sont pas des ornements du discours logique, mais elles incarnent la perception sensible saisie à sa racine, avant même que l'intellect ait fait son travail de mise en ordre. Alors, prenons hypallage. Par exemple, hypallage, ça veut dire échange. Hypalatein, j'échange, un échange, ça veut dire un échange. Si je parle d'une route circulante, ça se dit ça. Bon, pour dire qu'il y a beaucoup de monde qui circule, si je parle d'un plat gourmand, pour dire que ce plat est apprécié des gourmands, donc j'échange, en grec hypalatein, échanger, ce qui appartient normalement ou logiquement à une réalité, celle du sujet animé par exemple, celui qui circule sur la route, avec ce qui appartient à l'autre comme celle de l'objet inanimé, la route qui devient circulante. Et ainsi je recrée bien cette porosité originelle où sujet et objet s'interpénétraient. Voyez ? Il y a un vers de Lamartine qui dit par exemple « Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire ». Voyez ? Bon. Normalement, d'un point de vue logique, je suis solitaire, moi, et rêveur, mais du point de vue poétique, c'est le pas qui devient rêveur et le sentier qui devient solitaire. En plus, dans le « je suis », pourquoi ne pas avoir une homonymie avec le verbe « suivre », ce qui n'est pas impossible, vous savez, et aussi avec le verbe être. C'est le verbe suivre, mais bien aussi avec le verbe être. Logiquement, c'est le marcheur qui est rêveur et non pas son pas, et c'est lui qui est solitaire et non pas le sentier. Mais quand je me trouve entouré par le monde au point de ne faire qu'un avec lui, alors les qualifiants peuvent se permuter et s'échanger. Alors, la double hypallage. Hypallage, alors je vous signale, certains dictionnaires le mettent masculin, le Larousse par exemple, le petit Larousse. Mais je pense qu'il vaut mieux le mettre féminin, une hypallage, parce que hypallagé, c'est féminin en grec. Donc je préfère parler de la double hypallage maintenant, dans l'exemple que je vais prendre, plutôt que le double hypallage. Le plus célèbre, c'est celle de Virgile dans l'Énéide. Il s'agit d'Énée et ses compagnons qui marchent solitaires, dans l'ombre de la nuit. Alors voici ce que Virgile écrit. Je vous le dis en latin d'abord, c'est d'une très belle langue le latin. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram. Alors si je traduis littéralement, j'ai ils allaient obscurs dans la nuit solitaire à travers l'ombre. Voyez. Bon, alors normalement c'est la nuit qui est obscure, c'est les marcheurs qui sont solitaires, mais non, là. Double permutation. Ils allaient obscurs dans la nuit solitaire à travers l'ombre. Les marcheurs solitaires se fondent dans la nuit si intimement que c'est la nuit qui en devient solitaire et eux qui en deviennent obscurs, vous voyez. En plus, dans le sola sub nocte, vous avez ce qu'on appelle une hyperbate, mais ça, c'est un autre type de figure. Au lieu de sub sola nocte, vous avez sola sub nocte, Ça veut dire passer par-dessus, hyperbainein, hyperbate, alors voilà donc l'unité première, par quoi on peut approcher et faire toucher concrètement, en quoi consiste donc l'unification essentielle, spirituelle, que vous avez dans l'Évangile selon Thomas, et dans bien d'autres textes majeurs. Si vous exprimez l'unification dans ce genre de texte, comme l'Évangile selon Thomas, en termes abstraits, eh bien vous n'y comprenez rien. C'est pour ça que les logia, les paroles de Jésus, pour les éclairer, très souvent j'ai eu recours à la poésie, si vous voulez, pour comprendre ce que c'est que faire le 2-1. Alors, ne vous étonnez pas que je recours ainsi aux figures de style. Souvent, on les réserve au domaine de la poésie. Mais moi, je décide de les intégrer dans une réflexion sur la spiritualité, parce que tout se tient ici. Hein. Et je répète, alors, une idée qui m'est très chère, que les figures du langage verbal ne sont pas, comme vous le croyez souvent, des ornements ou des fioritures ajoutées après le discours logique pour l'enjoliver, ces fameuses fleurs de rhétorique. Fioritures, il y a fleurs dedans. Hein. Bon, les fleurs de rhétorique. Certains disent, j'écris logiquement, et puis pour faire joli, je vais ajouter de ça à là quelques figures. C'est complètement le contraire. Hein, c'est complètement le contraire. Ces figures sont la transcription et le reflet des impressions premières, qui sont les plus vivantes, avant que le monde logique ou le monde du logos, logos en grec, c'est le discours logique. Ça s'oppose à mutos, qui est le discours non rationnel, si vous voulez. Mutos qui a donné mythe. Hein. Avant que le monde du logos ne fossilise les choses, en les cachant sous des étiquettes conceptuelles, hein, eh bien, ces figures nous renvoient à la vie immédiate, sans médiation. Et c'est en quoi elles ont un très grand intérêt spirituel, puisqu'elles nous font retrouver une unité perdue. Et donc, il faudrait faire une anthropologie des figures, c'est ce que j'ai fait dans mes 99 réponses, pour montrer que les figures concernent l'être humain, hein, dans son mode habituel de vie. Il se fait des figures, sur la place du marché, il s'en fait beaucoup plus que peut-être dans tous les livres. Hein. Des métaphores, il y en a une drôle de cafetière, celui-là, ou une drôle de tirelire, etc. Tout le monde en fait, des métaphores. Hein. Donc, elles appartiennent au langage parlé quand il est vivant, si vous voulez. C'est pas un discours logique où on va ajouter des choses. Non, non, pas du tout. Et alors, ces fameuses séparations dont j'ai parlé à propos de la Genèse, elles vont être supprimées. Elles vont être conjurées par l'usage des figures. Par exemple, la séparation du jour et de la nuit, elle disparaît dans l'oxymore. Vous avez entendu parler de l'oxymore, hein? Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, voilà. Hein, dans l'oxymore, alors oxymore, ça veut dire fine folie. Moria, c'est la folie. Oxus, c'est fin, aigu. Hein. Folie perspicace, fine folie. Donc, effectivement, le clair-obscur, si vous voulez, vous voyez les tableaux de Rembrandt, de Latour, de Caravage, etc., c'est oxymorique d'inspiration, en quelque sorte. Hein. C'est une figure où on pourrait dire que le qualifiant contredit le substantif, ou le déshabille, en quelque sorte, hein, l'oxymore, vous voyez, oxymore. Quant à la séparation du ciel et de la terre, ou de la terre et de la mer, la séparation des différents règnes même, hein, qui, comme je l'ai déjà dit, met chaque réalité créée dans des cases, minéraux, végétaux, animaux, etc., chaque réalité est créée chacune selon son espèce, hein, c'est l'expression biblique, tout cela disparaît, alors, dans la métaphore, hein, dans la métaphore. Dans la métaphore, une réalité se fond avec une autre, en se transférant en elle. Metaferein, ferro, je porte, c'est le même mot en latin d'ailleurs, meta pour marquer le changement de lieu. En grec moderne, métaphorer, ça veut dire déménagement. Hein. Donc, voyez par exemple les pages que Proust, dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » consacre aux métaphores du peintre Elstir. Ce peintre Elstir, c'est sûrement Claude Monet. Hein. Dans la peinture impressionniste, on voit bien que le ciel, la terre, la mer, tout ça se mélange, toutes les réalités deviennent amphibies, si vous voulez. Hein. Donc, tout peut s'interpénétrer. Hein. La terre devient marine, la mer devient terrestre. Hein. Si je dis marcheur céleste, hein, pleine liquide, supposez que, par exemple, je vois une flaque d'eau, que dans cette flaque d'eau se reflète le ciel, avec quelques nuages. Je vais marcher dans le ciel, voilà. Marcheur céleste, je deviens marcheur céleste, vous voyez. Je marche dans la flaque, voilà. Bon. Pleine liquide, et même jeune fille en fleurs, ben, c'est une métaphore. D'ailleurs, ça se dit dans le langage parlé, une belle jeune fille, on dit voilà une belle plante. Hein? à une belle plante. Donc ça se dit, pas peine d'être grand poète ou de croire qu'on n'est pas un grand poète, parce qu'on peut être un grand poète à chaque moment de son où l'on parle, si vous voulez. Hein. Parce qu'on trouve que la fleur, évidemment, est plus belle, effectivement, mais la métaphore, de toutes les façons, est végétale. Hein, c'est une métaphore, elle végétalise. Hein. Belle plante, ouais, il y a peut-être une différence, peut-être plus jolie. Ah, oui, mais ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Plante et plantureux, c'est la même racine. Hein. C'est poétique. Maintenant, le naturaliste vous dirait que la fleur, c'est l'organe sexuel de la plante, donc c'est sert à la reproduction. Tout dépend du regard que l'on jette sur les choses. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Mais alors, on peut mélanger aussi le règne minéral avec le règne végétal et le règne animal. Par exemple, vous voyez la chevelure de Baudelaire. Hein. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à l'entrée le vin du souvenir? Là, vous voyez, donc, ta crinière, c'est animal, ça, hein. Bon, sèmera le rubis, la perle et le saphir. Ça, c'est du minéral, hein. Alors, c'est quoi, ça? C'est, vous savez que dans les cheveux que l'on caresse, il y a de l'électricité statique, hein, et ça crépite, si vous voulez. Hein. Donc on peut avoir l'impression de semer des pierres précieuses, si vous voulez, hein, en caressant une chevelure. Hein.
Il y a aussi des
oui. Voilà. Donc, règne animal, crinière, règne minéral, rubis, règne... Tout est mélangé. Donc, la poésie abolit ici la distinction. Et attention, je prends distinction dans les deux sens du mot distinction. Séparation et aussi distinction au sens où on pense quelqu'un de distingué, c'est un humain, si vous voulez, un animal, il est moins distingué que l'homme. Hein. Eh bien non, la poésie, elle refuse justement cette distinction aussi. Hein. Tout s'y mêle. Hein. Et finalement, on pourra trouver d'autres exemples, hein, mais on s'aperçoit justement d'un monde que l'on avait cru perdu, mais qui est ressuscité. Donc, notez qu'à l'inverse, hein, que de ce que l'on croit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les figures n'appartiennent pas au langage littéraire qu'on dit élevé. Hein. Elles sont constantes en nous, elles brouillent systématiquement le langage ordonné. Il y a donc une poésie, et même si vous suivez ma démarche, une spiritualité potentielle dans tout être qui s'exprime profondément et de façon vivante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être unifié, au sens spirituel du mot? C'est celui qui ne fait qu'un qu'avec ce qu'il perçoit. Hein. Il est ce qu'il voit, et dont l'essence même se fonde ensemble. Ce que l'on appelle, alors, à partir d'un mot grec, une synesthésie. Alors, une synesthésie. En grec, vous avez « syn » qui veut dire « avec », hein, comme dans « symbiose »,« vie avec hein, », et « aesthésis » qui veut dire « la sensation » que vous avez dans « esthétique » ou « anesthésie hein, »,« anesthésie », »,« insensibilisation », etc. Donc, synesthésie, c'est une sensation globale, si vous voulez. Par exemple... Si je me promène dans une campagne au milieu des prés verts et si je suis frappé par le silence, pour voir si vous avez compris, faites-moi une petite phrase poétique à partir de là. Hein? Je suis dans la campagne, les prés sont verts et il y a du silence. Si je dis, je me promène dans le silence et devant des prés verts, c'est pas de la poésie. Voilà. Ou alors... Ou alors, aller plus loin, au lieu de dire prévert silencieux, vous êtes sur la voie là, qu'est-ce que vous percevez immédiatement? Le silence par les oreilles, hein, et le vert par les yeux. Donc il faut le dire tout de suite, c'est-à-dire le silence vert des prés. Voilà. Là, vous avez la poésie. Voyez. Mais vous en approchez. Hein. Mais il faut voir ce qu'on perçoit avant tout. Hein. On perçoit le vert par nos yeux et le silence dans nos oreilles. Le silence vert des prés. Hein. Donc, l'ouïe et la vision sont exactement concomitantes. Hein. Tandis que si je disais le silence des prés verts, bon, ça serait une analyse, hein, une dissection, une dissolution, si vous voulez, hein, et ça n'aurait rien à voir avec la poésie, puisque cela séparerait ce que l'expérience sensible nous présente comme unifié, vous voyez. Si j'entends un coucou chanter dans le lointain, ce coucou finit par se confondre dans une parfaite indistinction avec les battements de mon propre cœur, vous voyez, hein. Là, je prends cet exemple à Francis Ponge, un très grand poète, vous voyez. Oui. Alors oui, tout à l'heure, vous n'aimiez pas mon oiseau qui fait entendre son chant joyeux.
Parce que vous disiez que c'était pas poétique, mais moi je suis sûre que on peut, avec cette phrase, faire quelque chose de joli.
Ah oui.
Ça sera poétique.
Oui, mais il faut supprimer l'oiseau puisque je le vois pas. Hein. La poésie, c'est le vu et le senti, ce n'est pas le su. Le su, c'est le concept. Ce qu'on sait, hein, ça appartient à l'intellect. Mais c'est nécessaire de savoir, bien entendu, hein, bon, c'est sûr, hein. Mais c'est dommage, parfois, de s'en tenir au savoir. Il faut revenir à un monde sensible. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oui, mais alors le problème, alors là, d'un malheureux comme les pierres, le problème c'est ce qu'on appelle la lexicalisation, et ça devient dangereux. Enfin, dangereux, non. Les plus belles choses, une fois passées dans le dictionnaire et répétées, si vous voulez, elles deviennent cette pièce qui s'encrasse dont je parlais tout à l'heure. Et la lexicalisation d'une figure est une catastrophe. Le premier qui a comparé la femme à une rose était un poète. Mais ceux qui ont répété ça n'étaient plus des poètes. Hein, n'étaient plus des poètes. Hein. Bon, Ronsard, Mignon, allons voir si la rose, etc. Bon, mais après, quand ça se lexicalise, par exemple, je peux comparer l'amour à une flamme. Bon. D'accord, hein, les feux de l'amour, voilà, bon. Si je dis, je déclare ma flamme à quelqu'un, bon, c'est une métaphore, hein, et c'est même une métaphore, comme on dit, in absentia, c'est-à-dire en l'absence du thème. Bon, là, c'est une parenthèse que je fais. Il y a différents types de métaphores. Vous avez des métaphores. Dans chaque métaphore, vous avez le rapprochement de deux réalités, la réalité sue, dont on part, que l'on appelle le thème, et la réalité sensible, ou vraiment perçue de façon vivante, vers laquelle on va, et que l'on appelle le fort. Hein. Donc, quand le thème existe, la métaphore est in praesentia. Bon. Et quand le thème disparaît, la métaphore est in absentia. Alors, elle est plus difficile à comprendre. Alors, quand je dis la flamme pour l'amour, si je dis l'amour est une flamme, bon, l'amour est une flamme, flamme, c'est une métaphore, en présence, in presentia, du thème, l'amour. Hein. Donc, le fort est en présence du thème, d'accord? Bon, ça, c'est très simple à comprendre. Maintenant, si je dis la flamme pour dire je déclare ma flamme à quelqu'un, alors là, j'ai seulement le fort, hein, je n'ai plus le thème, je n'ai plus ce dont je suis parti, et c'est ce qu'on appelle une métaphore in absentia. Malheureusement, elle n'est pas poétique. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue un cliché, elle s'est lexicalisée, et tout le monde comprend, hein, déclarer sa flamme. Donc, c'est le danger qui guette les plus belles métaphores, le danger de la lexicalisation. Et malheureux comme les pierres, j'ai bien peur que ça soit une comparaison. Alors, quelle est la différence entre la métaphore et la comparaison? C'est tout simplement, est-ce qu'il y a un comme ou pas, hein? Bon, c'est tout. C'est la présence ou l'absence du comme. Hein? Mais malheureux comme les pierres, peut-être que le premier qui a eu cette impression sensible a été un grand poète. Malheureusement, on répète, et ça devient banal. c'est du réchauffé et ça devient ce qu'on appelle la lexicalisation, c'est-à-dire la fossilisation d'une expression quand elle passe dans le lexique, dans le dictionnaire. Alors, quel est le moyen de les réhabiliter? On peut jouer dessus. Hein, on peut jouer par le clin d'œil, le jeu de mots. Vous voyez, par exemple, si je dis le capitaine des pompiers a déclaré sa flamme à sa belle, etc. Bon, vous voyez, donc là, je joue sur les mots. Hein. Vous voyez, donc c'est effectivement, mais je m'amuse à ce moment-là. Je peux m'amuser. Hein, je peux m'amuser. Même des expressions banales, sous la plume d'un poète qui est capable de les renettoyer, de les astiquer, ça peut être très beau. Par exemple, Prévert, dans Promenade de Picasso, termine en disant « c'est un monde terrifiant et marrant, etc. Beau comme tout ». Bon, eh bien, beau comme tout, c'est d'habitude, tout le monde le dit, c'est beau comme tout. Mais chez Prévert, ça devient c'est nettoyé, vous voyez, beau comme le tout qui vient d'énumérer. Beau comme tout. Donc, je peux, il y a des moyens de nettoyer les métaphores lexicalisées ou les figures fossilisées. Mais il faut voir effectivement ce danger. Hein. Et alors, à partir de là, on en vient à ce qui est le plus difficile dans les logias. Hein. Par exemple, voici un logion. De l'évangile selon Thomas, le 27, si vous ne faites pas du Shabbat le Shabbat, vous ne verrez pas le Père. Bon, là, qu'est-ce que vous allez y comprendre, hein? Si vous ne faites pas du Shabbat le Shabbat, vous ne verrez pas le Père. Alors, la figure qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle une antanaklase. Hein? Antanaklase. Antanaklase. Ça veut dire, en grec, klazein, c'est frapper. Donc, ça veut dire écho, réverbération, miroitement. Ça peut être un reflet visuel ou un écho sonore. L'exact équivalent du mot antanaklase, c'est en latin le mot réverbération. Réverbération. Werberare, frapper, hein, à nouveau, antanaklase. Si je dis par exemple, une femme est une femme, ou bien un homme est un homme, ou bien Paris sera toujours Paris, vous voyez, hein, ou bien Rome n'est plus dans Rome, comme le dit Dubellé dans ses regrets, eh bien, je répète même mot, mais je donne à chaque fois une valeur sémantique différente, un sens différent. Hein. Une femme est une femme, ça veut dire une femme que je rencontre dans la rue, c'est une femme archétypale. Le circonstanciel devient archétypal. Donc, dans un mot, il faut faire miroiter, c'est ça dans la classe, l'archétype fondateur. Miroiter l'archétype fondateur. Il faut le faire soupçonner l'existence, si vous voulez, par ce reflet. Hein. Donc l'essence doit miroiter dans l'accident, hein, comme dans la figure de l'antanaklase. Donc si vous ne faites pas du Shabbat le Shabbat, vous ne verrez pas le Père. Ça veut dire si le Shabbat que vous pratiquez, hein, n'est pas le Shabbat archétypal, c'est-à-dire définitionnel, ontologiquement fort, hein, ce n'est pas un vrai Shabbat, vous voyez. Si je dis à quelqu'un « tu n'es pas un homme », comment dire, c'est autre chose et c'est plus fort que de lui dire « tu es un méchant homme, un vilain homme, etc. » Ça veut dire, si je dis « tu n'es pas un homme », ça veut dire « tu n'es pas conforme à l'idée ou à l'essence de l'homme, ce qui s'atteste en moi dans mon esprit quand je prononce le mot « homme », vous voyez. Tu n'es pas conforme à la définition, à l'archétype de l'homme. Vous voyez ce que... Bon. Alors quand on dit un homme est un homme, le premier homme, il est circonstanciel, simplement. Et le deuxième, c'est le monde archétypal. Par exemple, on dit que Diogène se promenait un jour dans Athènes, en plein jour, à midi, avec une lanterne allumée. Hein. Alors, qu'est-ce que tu cherches, Diogène, lui demanda-t-on. Alors il a répondu, je cherche un homme. Hein. Alors, ne pensez pas qu'il ait eu des mœurs spéciales, hein, c'est pas ça du tout. Ça veut dire, il voulait dire, je cherche quelqu'un qui soit digne du nom d'homme, qui mérite d'être appelé homme. Et comme il n'en trouvait pas, ben, il laissait sa lanterne allumée, vous voyez. Donc, vous voyez le sens archétypal. L'antanaklase, c'est ça. Et tout l'évangile selon Thomas joue sur l'antanaklase, tout. Ou une très grande majorité des paroles, hein. c'est-à-dire l'accident et l'essence, hein, et effectivement, c'est ce que j'ai appelé dans mon chapitre l'essentialisation, hein, le retour aux archétypes. Et quand l'unité est retrouvée, pas dans le langage utilitaire, alors les mots prennent un poids et une densité ontologique essentielle. Par exemple, Prévert fait dire à l'héroïne du film de Marcel Carné, Le jour se lève, la phrase suivante, la campagne c'est quand il fait beau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la campagne vraie, véritable, celle que l'on ressent au fond de soi comme archétype de la campagne, hein, c'est quand il fait beau, quand, voilà. Mais c'est vrai que dans la campagne il pleut aussi, hein, bon. Mais la vraie campagne c'est quand il fait beau, hein. Vous voyez une chanson qui était naguère chantée par Michel Simon, le printemps sans amour c'est pas le printemps, vous voyez, hein. Voilà, donc c'est pareil, hein, ça veut dire que le vrai printemps est associé à l'amour, hein. Mais bien sûr, aucun dictionnaire ne vous donnera cette définition. À campagne ou à printemps, vous n'aurez pas la campagne c'est quand il fait beau, ou le printemps c'est quand il y a de l'amour, vous comprenez, jamais le dictionnaire. Seul le poète pourra le dire, hein, et finalement... Le sentir. Alors, je mets dans le même sac les spirituels, les mystiques, les enfants, les poètes, peut-être les fous, et j'ajoute la femme qui sent les choses beaucoup plus profondément que les hommes, hein, il me semble. Est-ce que vous avez bien compris ce que veut dire Antanaclase? Faire miroiter dans un mot son sens essentiel, hein, son sens essentiel. C'est le conjurer alors, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chute ontologique.
C'est quand même subjectif, parce que moi je veux me faire une idée de l'homme d'une certaine façon, et le copain d'en face peut
le voir autrement. Oui, mais alors là, homme, il s'agit de l'être humain quand même, parce que c'est pas l'homme au sens aner en grec, mais l'homme au sens de anthropos, hein. Donc pas wir en latin, mais homo, hein. Donc un homme est un homme. Dans une femme est une femme, non. Une femme est une femme. Il y a un archétype féminin. C'est vrai. Vous avez raison. Alors est-ce qu'il existe ces archétypes? Alors il faut être idéaliste. Hein, Évangile d'Automate entièrement idéaliste. Moi aussi, je suis idéaliste au sens où je pense qu'il y a des archétypes. Mais quand Socrate parlait des archétypes, ben les sophistes lui répondaient qu'ils n'existaient pas. Par exemple, je crois que c'est Protagoras qui répond à Socrate la chose suivante. Je vois bien le cheval, mais je ne vois pas la chevalité, hein, l'archétype du cheval, vous voyez. Donc, il faut un certain idéalisme pour sentir ce que peut signifier un archétype. Paris sera toujours Paris, ça veut dire que la ville, maintenant, si déformée qu'elle soit, ou si elle sera toujours conforme à l'idée, au moins que certains esprits idéalistes s'en font. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais finalement... pour opposer la circonstance à l'essence, il faut sentir ce que Heidegger, dans L'être et le temps, appelle la chute ontologique. Alors, la chute ontologique, c'est la chute de l'être dans l'étang. Alors, attention, l'étang, c'est pas l'étang plouf, hein, comme ça. C'est l'étang, c'est le participe du verbe être. Hein, participe du verbe être, la chute dans l'étang. Donc l'être peut tomber dans l'étang, c'est-à-dire l'essence peut chuter dans la circonstance. Mais pour les gnostiques, comme l'évangile de Thomas, l'essence peut miroiter encore dans l'accident et imaginer un puzzle, hein, ou alors un miroir brisé, tenez, hein, un miroir brisé. Vous avez des éclats de lumière, hein, et on peut réunir tous ces éclats qui se reflètent dans les éclats du miroir brisé pour réaliser justement l'unité perdue. Parce que la gnose part de deux principes. Un, que la vie est une dégradation, et c'est pour ça que certains me disent, mais monsieur Théron, vous êtes très pessimiste de parler ainsi de la rouille du temps et de la dégradation. Mais le deuxième principe, c'est que cette dégradation est conjurable. C'est-à-dire, on peut réaliser à nouveau cette unité perdue. Et elle peut être réalisée par retour à quelque chose que nous avons connu et puis perdu, c'est-à-dire l'enfant éternel, le puera eternus, hein, l'enfant qui est au fond de soi-même dont j'ai parlé dans la source intérieure. Et c'est remarquable parce que la source intérieure a été préfacée par Monsieur Gounel, qui est devenu un ami depuis, et qui a des idées absolument opposées aux miennes. Parce que sa théologie, c'est la théologie du process, c'est-à-dire d'un dynamisme créateur de Dieu, si vous voulez. Hein. Bon, donc pour lui, la terre promise vers laquelle on va n'est pas l'Éden dont on est sorti. Hein. Alors que pour moi, je pense que, de ce point de vue, je n'ai aucune vision eschatologique des choses. C'est-à-dire, je n'attends pas du ta eschata, c'est les fins dernières. Pour moi, il n'y a pas de jugement dernier, ni un jugement post-mortem après la mort, etc. Le problème, c'est que l'enfer, au lieu de nous amenacer après la mort, comme le fait l'Église officielle, il peut exister ici-bas, il est ici-bas. Et alors, il faut, en quelque sorte, que cette vie dégradée devienne une vraie vie. Vous voyez, voilà un exemple d'Antanaclase. Si je dis « la vie n'est pas la vie », eh bien, vous comprenez, la vie que l'on connaît n'est pas la vie idéale dont on a l'idée. Hein. Alors, on peut, par la graphie, mettre « la vie ordinaire n'est pas la vie » en soulignant, on met en italique le « la », hein, ou mettre un V majuscule à la deuxième occurrence du mot « vie hein, ». Ben si, d'un certain point de vue, si. Mais je pense que le problème n'est pas qu'il y ait une vie après la mort, mais le problème est qu'il y ait une vie avant la mort. C'est-à-dire qu'avant la mort existe quelque chose qui mérite d'être appelé vie, qui soit digne d'être appelé vie. Or, hélas, la plupart du temps, les gens n'ont pas cette vie-là. Hein. Alors on les menace d'un jugement dernier, on les berce d'espoir dans une vie après la mort. Ça, c'est la perspective eschatologique. Mais la gnose, et l'évangile selon Thomas est très gnostique à cet égard, refuse toute eschatologie. Quand les disciples demandent à Jésus « Dis-nous quelle sera notre fin ?» Jésus répond « Avez-vous donc oublié le commencement pour que vous vous préoccupiez de la fin ? Car là où est le commencement, là aussi sera la fin. » C'est lumineux ça. Hein? Donc « Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, car il connaîtra la fin. » Donc retrouver justement l'unité perdue. Alors, je suis très content que M. Gounel ait accepté quand même, malgré nos différences d'options, de préfacer mon livre. Il a fait une préface très élogieuse dont je le remercie beaucoup, si nous n'avons pas les mêmes idées. Pour lui, la vie, c'est une progression constante vers plus de positivité, si vous voulez. Alors que pour moi, je me souviens quand j'étais petit, on me disait toujours « tu verras plus tard ». Bon, puis j'ai grandi, j'ai vieilli, et bien plus tard on ne voit rien. Hein, on ne voit rien. Donc, finalement, l'essentiel a été vécu. Hein. Et donc c'est le deuxième point de la gnose. À côté du côté pessimiste, hein, de dégradation, le deuxième point, c'est retrouver en vous ces éclats, dans ces éclats que vous voyez, ces éclats qui vont vous permettre de réunir le miroir qui a été brisé, vous voyez. Oui. Alors, s'agissant du bouddhisme, il est sûr que c'est une sagesse, qu'il n'y a pas du tout de Dieu transcendant. Moi, je suis assez de cet avis. Hein. Effectivement, c'est le point sur lequel que je ne comprends pas, moi, c'est cette idée de karma, hein, de poids à porter, de vie antérieure. Alors ça, là, mais par contre, pour tout le reste, je suis d'accord, c'est un éveil. Hein. Bouddha signifie éveillé, et il nous dit, vous devez être des Bouddhas, vous devez être tous des éveillés, donc, voilà, donc là, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Le karma, moi je trouve que c'est, je le comprends pas. C'est une idée hindouiste hein, d'abord, hein, le karma. C'est une idée hindouiste qui nous dit que justement nous portons le poids des générations passées. Alors il y a un mouvement que je trouve sectaire aujourd'hui, mais qui se développe, qu'on appelle la psychogénéalogie, hein, qui prétend dénouer des conflits par le retour, la mémorisation de conflits connus par nos ancêtres, nos ascendants, etc. Or, la Bible dit, je crois que c'est dans Ézéchiel, en ce temps-là, on ne dira pas les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Hein. Donc, nous n'avons pas à porter le poids hein, de cette culpabilité des générations antérieures. Qui existait dans le monde juif quand même à l'origine, puisque par exemple on présente un aveugle à Jésus et on lui dit mais qu'ont fait ses parents pour qu'il soit devenu aveugle, vous voyez hein. Bon, mais je pense que la phrase, je crois qu'elle est d'Ézéchiel hein, raisin vert et les enfants n'auront pas les dents agacées parce que les parents ont mangé des raisins verts, ça me semble beaucoup plus digne hein. Alors donc, je m'achemine vers ma conclusion. Après, on pourra faire une discussion. Donc, je dis qu'il faut retrouver, par l'Antanaklas, l'ektat et le sens de la première nomination. Hein. Vous savez que c'est Adam qui a donné les noms de tout ce qui existait hein, dans le deuxième récit de création. Hein. Dieu avait créé, et puis il a donné à Adam l'attitude de nommer, hein, donc de baptiser les choses. Hein. Gide dit dans les nourritures terrestres, Adam 9, c'est moi qui baptise aujourd'hui. Hein. Donc, un poète ou un spirituel devrait retrouver cet état, soit du langage, soit du regard, où tout doit devenir nouveau finalement. C'est comme si les noms devenus ensuite communs redevenaient noms propres, ce qu'ils étaient quand on les a appris et utilisés pour la première fois. Vous voyez, hein, les mots, les noms doivent retrouver ce point ontologique qu'ils avaient quand ils ont été initialement prononcés et dont le langage utilitaire, la fameuse pièce de monnaie qui s'encrasse et passe de main en main dont je parlais tout à l'heure, dont le langage utilitaire les a dépouillés. Vous voyez, le paradoxe, c'est que le langage, alors après, va devenir, comment dire, l'emporter sur les choses mêmes de la perception. Par exemple, si je vous dis le pont d'Avignon, à quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez au pont qui se trouve en Avignon? Non. Voilà, vous pensez à la chanson. Hein. Donc, Breton d'Anadja dit Avignon où un vieux pont a cédé sous une chanson enfantine, vous voyez hein. Donc, le langage alors devient...
Vous dites le pont d'Avignon, je me représente le pont Saint-Bénédict.
Parce que vous le connaissez. Mais pour la plupart des gens, le pont d'Avignon, c'est la chanson. Le langage... a une magie particulière quand il est utilisé de façon... Si on vous dit cow-boy, par exemple, ça fait rêver. Si on vous dit garçon vaché, hein, c'est la traduction pourtant, hein, garçon vaché. Voilà, donc, la Joconde, bon, elle a triomphé de Mona Lisa. Hein. Donc, c'est pareil pour tous les systèmes de représentation. Bref, je dirais, pour conclure, qu'on ne dit rien sur les spiritualités si on emploie simplement des mots abstraits. La spiritualité est affaire d'expérience, l'évangile selon Thomas, les grands textes spirituels en général, bien sûr ne parlent jamais de poésie, mais même si vous voyez ces deux domaines, spiritualité et poésie, différents, leur but en réalité est fondamentalement identique, qui est de retrouver l'unité perdue. Et je vais terminer en faisant l'éloge peut-être de quelque chose qui va vous paraître paradoxal, c'est un certain silence. Hein. Parce qu'au fond, ces séparations inaugurales nécessaires à la vie pratique créent un univers efficace, bien sûr, dans la technique, etc., et favorisent cette action que nous exerçons sur le monde et qui est souvent l'instrumentalisation du monde. Hein. Mais tout cela en fait fâcheusement perdre un autre monde tout plein de vie qu'il ne s'agit que de retrouver. Alors, bien sûr, ici, le silence serait l'idéal. Bon, vous savez comment commence le Tao Te King de Lao Tzu. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas, vous voyez. Donc, Breton, à la fin de Nadja, dit « royauté du silence hein ». Donc, chaque poète doit écrire à la limite du silence, dans la réflexion. Les livres sont les enfants du silence, disait Proust, hein. Et en théologie, vous savez, peut-être la meilleure théologie, c'est la théologie négative, qu'on appelle la théologie apophatique, qui consiste à dire de Dieu ce qu'il n'est pas. Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela, Dieu n'est pas cela. Apophase, en grec, c'est comme dénégation, hein, c'est pareil. Hein. Donc, c'est Dieu, c'est le nada des mystiques espagnols, le rien, le nada, de Saint Jean de la Croix, de Saint Thérèse d'Avila, etc. Hein. Donc, en poésie, l'idéal, c'est de créer par des mots un état de manque de mots, en quelque sorte. Malheureusement, nous devons parler, puis je l'ai fait devant vous. Hein. Bon, donc, Edmond Jabès disait « Dieu, c'est le silence qu'il nous faut rompre hein. ». Et l'agnostique disait que même avant la parole, avant le logos, vous connaissez le début du prologue de Jean, au début était le logos, ou plutôt au principe, la parole existait éternellement, hein, le logos. Eh bien, l'agnostique, eux, disaient qu'avant le logos, il y avait sigé, qui veut dire le silence, hein, le silence, avant logos. Hein. Alors, si dont nous parlons, il faudrait le faire précautionneusement à la limite du silence, et en tout cas en nous tenant le plus près possible du début, du commencement, comme si nous découvrions le langage pour la première fois, comme le font les enfants, les spirituels et les poètes. Voilà, je vous remercie.